Bien, dernière communication avant notre table ronde. Alors, c'est donc Samuel Mine, qui est professeur de lettres modernes, qui est secrétaire adjoint du CERVI auprès de Claire Cornillon. Nous avons l'équipe cet après-midi. Il est également secrétaire de rédaction avec Simon Bréant, donc de la revue d'études sur la science-fiction, revue d'études en ligne qui s'appelle Res Futurae, qui ne devrait pas tarder à être en ligne. Simon et Samuel, nous l'attendons avec impatience, donc ça devrait arriver. Voilà, et donc, et puis Samuel est évidemment un passionné de science-fiction. Alors il va nous présenter une communication, et moi je suis très très contente qu'il présente cette communication-là, sur une écrivaine dont on parle finalement assez peu, qui est Nathalie Henneberg. Alors Nathalie Charles Henneberg, mais je n'ai pas rajouté le prénom du mari, parce qu'en fait c'est elle, je pense, qui écrivait beaucoup de ses romans. Enfin, peut-être que Samuel va nous en parler, qui s'appelle « Le dieu foudroyé, mythe, éthique et politique » dans deux romans, donc, de Nathalie Henneberg.
Merci, Natacha. Alors, Nathalie Henneberg est une figure particulière et mystérieuse de la science-fiction française. Alors, elle naît, Nathalie Novokovsky, à Batoumi, en Géorgie, où naîtra, quelques années plus tard, Arkady Strugatsky, d'ailleurs. Alors, sans doute en 1910, mais ses papiers indiquent 1917. Donc, on a déjà un premier mystère sur la date réelle de sa naissance. Sa famille fuit en 1920 avec les Russes blancs en Turquie et s'installe en 1922 au Liban. Elle aura donc une éducation, surtout en français. C'est en Syrie qu'elle rencontre Charles Henneberg, un sergent-major de la Légion étrangère française qui était en fait d'origine allemande, qu'elle épouse en 1937 à Damas. Sous le pseudonyme transparent de Dominique Hennemont, pour Henneberg, paraissent deux romans de Légion en 1952, et c'est ensuite sous le nom de Charles Henneberg que paraissent quatre romans de science-fiction et plusieurs nouvelles. Et c'est après la mort de son mari en 1959 qu'elle signe la suite de son œuvre de son seul prénom, d'abord couplé à celui de son mari pour des raisons éditoriales. Alors, en fait, tout ça, on le sait depuis peu grâce aux recherches, entre autres, de Charles Moreau, qui a bien établi qu'elle était l'unique auteur de tous ses ouvrages, comme elle l'affirmait d'ailleurs déjà de son vivant, et que Charles Henneberg était au pire un prête-nom, au mieux une aide pour la documentation de son œuvre. Elle a ainsi publié 9 romans de science-fiction et 4 recueils de nouvelles de science-fiction et de fantastique, créant une œuvre marquante dont on rend bien compte cette appréciation d'anthologiste. Donc, il s'agit en fait de Gérard Klein, Hélène Hersfeld et Dominique Martel. Il y a toujours quelque chose de wagnérien, de cosmique, de baroque, parfois d'outré, mais aussi de poignant dans les œuvres des Henneberg qui ont réussi à créer une véritable mythologie galactique. On retrouve ainsi dans La Plaie, paru en 1964, et sa suite Le Dieu foudroyé de 1976, le thème du combat contre un ennemi cruel et omniprésent comme les Algoliens du champ des astronautes, celui des mutants, présent à travers le personnage d'Anne de Nangis dans Le mur de la lumière, et celui du pouvoir de créer des mondes par l'esprit, présent dès la naissance des dieux. Alors, considéré comme son chef-d'œuvre, ce diptyque développe en fait une intrigue politique autour d'une guérilla contre les nocturnes qui ravagent la galaxie, autour également d'une réflexion éthique sur le mal, sous-tendu par une hypothèse pseudo-scientifique. Alors, en plantant le cadre de ce roman, elle n'apporte que peu de détails sur les institutions politiques de l'an 3000, et l'on sait peu de choses du couple. Mais on peut déjà détailler deux grands systèmes. Les planètes du système solaire sont indépendantes, mais la Terre est depuis longtemps aux mains des nocturnes, qui apportent avec eux ravages et destruction, et dont l'expansion incorpore peu à peu les autres planètes. Alors, ils ne semblent pas avoir de chef et ne sont constitués que d'espèces d'escadrons de la mort et de vaisseaux pirates, mais peuvent s'exprimer par la voix d'un conseil exécutif des ténèbres. Leur menace n'est pas vraiment connue de l'autre grand système, celui d'Arcturus du Bouvier, une civilisation d'humains ailés comparée à des anges, explicitement comparée aux anges de la Bible. Perdus dans leurs rêves et leur quête de beauté, ils délèguent aux terriens la navigation et l'armée. Je passe sur les détails, mais on note déjà que ces esthètes contemplatifs trop raffinés pour se salir les mains rappellent le topos des utopies extraterrestres ou des sociétés décadentes. Leur soif de perception les conduit d'ailleurs à une forme de nihilisme, puisqu'ils cèdent de plus en plus à une vogue de suicide comme achèvement ultime. Alors, les massacres commis par les nobles. Cette situation politique va en fait empirer. Arcturus va chercher à préserver le statu quo, alors que les ténèbres vont préparer dans l'ombre la perte de Sigma, la planète d'Arcturus. La lâcheté politique des Arthuriens éclate lors du procès d'un corsaire, Ertreg, l'un des héros du roman. Une parodie de justice qui a pour but de complaire aux Nocturnes, où ils se voient accusés des avoir attaqués quand ils venaient au secours de leurs victimes et où leurs atrocités lui sont attribuées. Alors, en fait, pour revenir au massacre commis par les Nocturnes, il donne lieu à de nombreuses descriptions frappantes qui montrent un sadisme sans limite, qu'il s'agisse de l'extermination au lance-flammes, racontée du point de vue des victimes, de faire des êtres humains les incubateurs de larves, de les laisser mourir de faim après avoir cédé au cannibalisme, de tuer une jeune fille pour ne pas mourir écrasée par des murs amovibles, et bien d'autres tortures. Tout au long de la plaie, les humains sont réduits à l'avilissement, poussés à l'abjection, avant de finir de la plus horrible des manières. La litanie de ces horreurs justifie pleinement l'épigraphe d'Essénine qui ouvre le roman, écrit avec le sang d'une veine entaillée. Alors, tout n'est pas sans rencontrer en fait d'écho dans l'histoire du XXe siècle, et en particulier l'histoire de la Russie. Donc, ce roman garde le souvenir de l'émigration des Russes blancs avec Wrangel, un épisode historique que Nathalie Enberg avait vécu petite fille et dont elle gardera, donc je cite Charles Moreau, une vision dantesque où règne une peur panique. On y voit également une ultime famille impériale emprisonnée puis massacrée en écho au sort funeste des Romanov en 1918. Plus tard, sur la planète d'Héphaestion, dans la fosse du Cygne, un groupe d'enfants abandonnés se surnomme les Besprisorniers, ce qui veut dire sans surveillance en russe, et qui était un terme donné aux enfants errants après la guerre civile en Russie. Le commandant Lescarol appelle Soviet le conseil qu'il réunit à bord de son vaisseau l'aiguille volante. Il n'est pas jusqu'au refrain de l'international qui ne soit parodié par le personnage d'Ivan Morozov, l'expert scientifique. C'est la lutte finale et l'international des astres libres aura l'avenir métagalaxique. J'enchaîne donc sur ce dernier personnage, donc Ivan Morozov, qui, bien que discret, tient un rôle déterminant. C'est lui qui élabore une théorie sur l'origine des Nocturnes, une théorie exposée dès le deuxième chapitre et mise en forme dans le rapport Morozov, qui occupe l'essentiel du quinzième chapitre. Il y revisite l'histoire de l'humanité en expliquant ses flambées de violence et ses génocides par des épidémies de plaies ou grands mal terriens. Il y établit une analogie avec la peste, symptômes proches, comportements monstrueux. Son rapport mentionne les génocides menés par Hitler, les camps de mort des États totalitaires, et conclut que la maladie est une maladie virale d'origine extérieure. Alors il va citer le passage de l'Évangile selon saint Luc qui sert d'épigraphe aux démons de Dostoïevski, où les démons justement entrent dans le corps de pourceau pour justement exorciser un possédé. Ensuite, Morozov s'oriente vers la démonologie et l'histoire de la sorcellerie à partir de cette idée de possession et arrive à l'hypothèse que ces virus sont doués de pouvoirs psy. Selon sa théorie, le mal serait donc un virus protéique se déplaçant dans les séquences du temps. Bon, je résume, c'est exposé de manière très détaillée. Alors, cette théorie, à la fois ambitieuse et fantaisiste, qui revisite toute l'histoire de l'humanité, évoque en plus finalement les élucubrations mêlant ésotérisme et référence à la science qui avait été popularisée dans les années 50, notamment sous l'influence de Jacques Bergier, l'auteur avec Louis Powell du Matin des magiciens, paru en 1960. Bon, on sait que Nathalie Enberg s'intéressait à l'ésotérisme et qu'elle admirait Jacques Berger, qui deviendra son éditeur et préfacier un peu plus tard. Alors pour autant, ce recours à la science comme même fantaisiste, comme explication d'un phénomène métaphysique, le mal causé par l'homme, s'apparente à la rationalisation des mythes, à la manière d'autres récits de science-fiction. On peut penser à Catherine Moore avec Chamblot, à qui justement les premiers éditeurs d'Enberg la comparaient. La métaphysique y est réduite à la biologie, la cruauté sanguinaire se rabat sur la propagation de la peste, et finalement avec Nathalie Enberg, la métaphysique a l'air d'être avalée et digérée par la science-fiction. Cette théorie fictive a été critiquée entre autres par Pierre Versin qui voyait vraiment une déresponsabilisation, le mal étant imputable non pas à la volonté humaine, mais à un simple virus. Elisabeth von Arnim a très bien en fait parlé de ce problème, et donc ne pouvant mieux dire, je vais la citer. Enberg tâtonne à la recherche d'une explication, en vacillant sans cesse entre le libre arbitre humain et la notion paranoïaque et manichéenne d'une volonté maligne de l'univers. Bon. D'autre part, l'autre grande idée de Morozov, c'est qu'une arme est naturellement apparue pour contrer la plaie. Ce sont les mutants, qui sont comme un grain de sable dans l'engrenage du destin, dotés de nombreux pouvoirs psychiques, donc on a la télépathie, la télékinésie, le déplacement dans l'espace et le temps. Ils sont considérés comme une compensation au mal terrien, pourchassés par les nocturnes qui voient en eux la seule menace capable de les vaincre. Ces mutants s'unissent donc tout le long du roman. Morozov est lui-même télépathe, les personnages principaux vont se rencontrer. Il y aura Thalestra Novak, une télépathe capable de faire des bonds dans l'espace et le temps, Vilis, une sensitive qui absorbe la souffrance des autres, et enfin Ertreg, qui ne sait pas en fait qu'il possède des pouvoirs exceptionnels. Il peut emprunter le subespace pour voyager dans les interplans. C'est un maître du temps, un créateur des mondes. Astronaute combattant les nocturnes, il était déjà assimilé à une figure biblique. À un moment, on dit David brûlé Goliath. Ses pouvoirs sont tels que finalement, dans le dieu foudroyé, il devra lutter pour ne pas être considéré comme un dieu sur une terre où les mirages prennent la forme des mythes les plus divers. Bon, le thème des mutants était en vogue à l'époque, en particulier dans les traductions de romans anglo-saxons, dans les collections Le Rayon Fantastique. Il suffit de citer À la poursuite d'Eslan de Van Vogt, Chaîne autour du soleil de Simak, ou Les enfants d'Icare de Clark, qui étaient tous publiés dans les années 50 au Rayon Fantastique. Et en fait, si Nathalie Enberg, dans une tribune signée Charles Enberg, il disait qu'il n'avait pas lu de science-fiction avant d'écrire la naissance des dieux, on a l'impression, en lisant la plaie, que depuis, Nathalie Enberg a rattrapé ce retard et qu'elle s'est vraiment nourrie de toute cette science-fiction. Bon, en ce qui concerne le thème des mutants en France, j'ai trouvé assez peu d'influences possibles, mais j'espère qu'on me donnera d'autres idées. Mais il y avait bien sûr l'apparition des surhommes de Bert Bruce en 1953. Ces mutants vont prendre une dimension messianique en fait, et un statut quasi divin. Au centre des mutations de Samara, sur Sigma, le psychanalyste Arsès prévient leur ère approche, que dire de leur pouvoir. Et il a même du mal à ne pas les présenter comme de nouveaux dieux créateurs. Je ne dis pas qu'ils naissent des dieux, mais un livre très ancien, plein de symboles, nomme l'homme image de Dieu. Il naît des êtres qui sont de telles images. Inversement, les nocturnes sont alors des démons, et ce n'est pas pour rien que le prince Ralph Valeran de Rafrik, donc un prince réfugié sur Sigma, va comparer la plaie à un péché originel, un mal latent prêt à se réveiller à tout moment. Il va lui-même être l'image en fait d'un damné qui, lors de sa captivité sur Terre, va décrire une image monstrueuse du Christ comme un cadavre pourrissant incapable de ressusciter. Donc on a en fait tout le long du roman, vous l'avez compris, énormément d'images bibliques qui sont réactivées. Donc il ne croit pas si bien dire, puisqu'à la fin du roman, on apprend par la bouche de sa mère que c'est un nocturne de naissance. Sa mère l'appelle même l'Antéchrist. Et c'est lui en fait qui, par ses trahisons, va précipiter la chute de Sigma et la fin du roman. Alors ces mutants antitoxines psychiques contre le mal sont aussi rapprochés, du fait de leur pouvoir et de leur hypersensibilité, d'autres catégories d'humains. Je cite un passage de la plaie. Il arrive qu'aux époques dramatiques de la vie universelle, des êtres surgissent qui entendent des voix. On les croit fous ou non. Un récepteur de cette espèce peut être un mystique, et alors il perçoit des paroles de salut. Ou un poète, et c'est l'inspiration. S'il est orgueilleux et que son siècle est rationaliste, il croira à son propre génie s'il est sensible à une communion avec l'univers. Donc les mutants sont presque des images de l'artiste ou du poète, de manière presque romantique. On penserait presque au Pain des Landes de Philippe Gautier. Et finalement, de là la question du mal, qui est la plus évidente du diptyque, l'œuvre pose aussi le problème de la création littéraire. La littérature apparaît en fait sans cesse dans les deux romans, qui ne semble que prétexte à faire référence à des œuvres de littérature mondiale, et tout renvoie à l'écrit. L'épigraphe des Sénines, dont j'ai déjà parlé, conjugue d'emblée l'écriture avec la souffrance physique en un tout indissociable, l'un servant de justification et d'adjuvant à l'autre, la douleur nourrissant l'écriture comme le sang remplit la plume. Certains passages de la plaie suggèrent explicitement que le roman serait une sorte de réécriture d'autres œuvres. Par exemple, la Divine Comédie, on a donc plusieurs références à la Divine Comédie, je passe, mais on a entre autres, dès le début, des citations de Dante que Thalestra connaît à peu près par cœur, qui sont presque revécues par Thalestra. La porte dont Dante parle au début de la Divine Comédie, pour elle, c'est le sas par où elle est entrée. On a vraiment une actualisation de la littérature. Et plus tard, c'est elle-même qui dira « Ce vieux poète a fait le même voyage que nous. Les ressemblances sont certaines, la descente à travers le cercle de Supplice, la bête monstrueuse de Saturne, le lac de la mort sur Uranus. » Un peu comme si donc la Divine Comédie, ou en tout cas certains passages, surtout de l'enfer, préfigurer la plaie. Alors, on a aussi, j'avais déjà dit, une référence à Dostoïevski, son roman Les démons, traduit aussi sous le titre Les possédés. Alors, Nathalie Hennberg lui donne une portée prophétique, en fait. C'est un message hallucinant du plus grand visionnaire de l'ère moderne. Les possédés de Fédor Dostoïevski sont la clé de voûte à l'échelle de notre temps. En fait, la littérature devient un message explicatif de l'avenir, ce qui est plutôt un rôle qu'on donnerait à la science-fiction. Elle ferait presque de Dostoïevski à l'auteur de science-fiction, finalement. Et en tout cas, son œuvre permet de comprendre les phénomènes incompris jusqu'alors. Avec ce livre terrible, nous sommes au cœur du mystère. Comme je vous l'avais déjà dit, Ertreg lui-même, ce personnage central de la plaie et du dieu foudroyé, est de toute façon une sorte de démiurge lui-même, capable de créer une réalité autre pour remplacer une séquence de temps insupportable. C'est en fait particulièrement bien sensible à la toute fin donc, de la plaie. Je cite les dernières lignes. « L'univers était ainsi. » Il avait recréé ainsi ce ciel ouvert, cette aurore. Alors, Nathalie Hennberg, tout en montrant une politique inique à force de lâcheté et un tableau du mal assez effrayant, en ravivant certains des pires souvenirs de l'histoire, surtout de la première moitié du XXe siècle, ne montre pas en fait forcément un intérêt démesuré pour la politique. De même, la théorie de Morozov sur la plaie, pour ambitieuse qu'elle paraisse, ne convainc pas tout à fait les lecteurs, comme l'écrit Elisabeth von Arbaud, la démiurge est faillible et ne contrôle pas totalement sa création. Mais c'est la question de la création elle-même et de la création littéraire en particulier qui revient tout au long du diptyque. Le poète, l'artiste y apparaissent comme des mutants qui passent presque inaperçus parmi les autres, des créatures de leur temps, capables d'amener la guérison ou d'éclairer les problèmes aussi bien d'une époque que de l'avenir, faisant de la littérature et de l'art un remède éternel.
Marche plus ? Si. Merci Samuel. Bien, donc je vais inviter...